Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et je vous remercie de prendre part au grand titre du jour en ce mardi 14 juin. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question d'homophobie, de la décriminalisation du cannabis et du départ de Bernard Drainville. Débutons par la plateforme de la presse. Ce premier article s'intitule « EI, tuer les homosexuels pour les purifier ». Ce qu'on apprend sur cet article, mesdames et messieurs, c'est ceci. Un juge masqué a prononcé une peine de mort contre deux jeunes hommes accusés d'homosexualité, Hawass Mala et Mohamed Salaman, dans une sentence rendue en pleine rue devant un groupe de badauds. Le juge est allé jusqu'à demander aux deux condamnés s'ils étaient satisfaits du jugement qui allait leur permettre de se purifier de leur péché. Puis, d'autres hommes masqués les ont empoignés et conduits sur le toit d'un hôtel voisin avant de les précipiter tête en bas du haut de l'immeuble. Déjà, à cette époque, l'EI n'en était pas à sa première exécution de présumés homosexuels. De telles séances de justice expéditive, médiatisées par l'organisation extrémiste elle-même, à coups de photos et de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, ont été documentées en Syrie, en Irak et en Libye, dans tous les territoires contrôlés par l'EI. L'EI, mesdames et messieurs, ça veut dire tout simplement l'État islamique. Et je poursuis avec cet article. Selon l'organisme Alt-Right Action International, dont le siège est à New York, le groupe État islamique aurait exécuté au moins 36 hommes sous prétexte qu'ils se sont livrés à des actes homosexuels. En décembre 2014, le groupe salafiste a publié son code pénal qui prévoyait punir les homosexuels en les condamnant à l'exil ou à des centaines de coups de fouet. Mais dans les faits, sur 25 exécutions répertoriées par l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, 6 victimes ont été lapidées, 3 ont été abattues et 16 ont été précipitées dans le vide. Selon le politicologue français Antoine Sfer, spécialiste du Moyen-Orient, ces exécutions largement publicisées par l'EI constituent une réponse au libéralisme occidental. Le groupe sunnite extrémiste justifie cette position extrême en s'appuyant non pas tant sur le Coran comme sur des hadiths ou des paroles attribuées au prophète Mahomet. Ces hadiths sont toutefois largement contestés au sein même de la communauté musulmane. Tandis que l'université Al-Azhar, plus importante institution de l'islam sunnite située au Caire en Égypte, rejette l'opposition de la peine capitale aux homosexuels. Le régime de terreur instauré par l'État islamique a atteint un niveau tel que de nombreux homosexuels sont allés jusqu'à cacher leur orientation sexuelle et s'enrôler au sein de l'organisation djihadiste pour se protéger eux-mêmes et leur famille, a révélé Soubi Nahas. Règle générale, l'islam réprouve l'homosexualité et dans beaucoup de pays musulmans, les hommes gays s'exposent à des sanctions pénales, notamment des peines de prison. La peine de mort reste une sanction exceptionnelle et l'islam compte même un imam ouvertement homosexuel, Diayewi Abdullah, qui vit à Washington. Enfin, l'islam sunnite n'a pas non plus le monopole de la répression des homosexuels. Ainsi, la justice iranienne a fait exécuter par pendaison 400 homosexuels, dénonce Amnesty International. Eh bien, mesdames et messieurs, ces extraits d'articles nous démontrent que les extrémistes islamistes sont cruels envers les homosexuels. Comme je l'ai déjà dit à cette antenne, j'ai milité contre le mariage gay et je suis prêt n'importe quand à dénoncer les abus du mouvement LGBT, spécialement lorsqu'il y a un lobby qui veut militer pour restreindre les libertés des groupes religieux. Mais là, ici, on fait face à de l'extrémisme. Et moi, je suis content d'une chose, mesdames et messieurs, que c'est j'ai entendu sur plusieurs plateformes, savez-vous quoi? Des gens qui ont osé dire, dans les médias, que la plupart des religions qui contestent ou qui ne sont pas à l'aise avec la pratique de l'homosexualité ont le droit d'exprimer leurs différences et ils le font pour la plupart avec respect, sans avoir à tuer des gens. Mais là, ici, avec les événements d'Orlando, eh bien, ça soulève tout un questionnement sur le rapport entre la religion et la pratique des homosexuels. On a vu des édifices municipaux ou parlementaires qui ont hissé le drapeau de la fierté gay en guise de solidarité avec la communauté gay qui ont perdu des victimes innocentes. Maintenant, et je l'ai dit hier, ce geste qui a été commis dans la nuit entre samedi et dimanche à Orlando est un geste complètement gratuit. Et ces êtres humains n'avaient pas le droit de finir leur vie de la sorte. Ce que je crois, mesdames et messieurs, c'est qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Avec raison. Le danger, c'est que là, on soit beaucoup plus impatient envers les groupes ou les personnes qui se prononcent contre la pratique de l'homosexualité. Ici, on a un exemple au Mexique. Et c'est encore une fois sur la plateforme de la presse qu'on peut y apprendre ces choses. Voici ce qu'on nous dit. Mexique. Un fonctionnaire renvoyé après un commentaire homophobe sur Orlando. Un fonctionnaire mexicain de l'État de Jalisco a été renvoyé après avoir publié sur Facebook un commentaire homophobe à propos du massacre perpétré dimanche dans une boîte de nuit gay à Orlando, faisant 49 morts, a-t-on appris lundi. Voici ce qu'il a dit sur Facebook. « Dommage qu'il n'ait été que 50 et non pas 100 », avait écrit ce fonctionnaire accompagnant sa phrase de trois émoticônes qui pleurent de rire selon les captures du message qui circule sur Internet. Sa publication n'était plus visible sur sa page Facebook. Et ça, c'est dommage, mesdames et messieurs. Comme je vous l'ai toujours dit, on peut être en désaccord avec un comportement, avec une idée, avec un mode de vie. Mais là, ici, on fait face à un discours haineux. Haineux, mesdames et messieurs. Dommage qu'il n'ait été que 50 et non pas 100. Renverser les rôles. Imaginez que c'était dans une église et qu'un fou arrive puis il tire à la mitraillette puis quelqu'un s'en va dire publiquement « Ah, c'est dommage qu'il était juste 50, mais qu'il n'était pas 100. » On aurait tous été scandalisés. Lorsqu'il s'agit d'un sort terrible comme celui qu'ont vécu les victimes d'Orlando, eh bien, c'est pas le temps ni de faire des blagues, ni de proférer un discours haineux. Et moi, je suis d'accord que cet homme-là soit réprimandé. Il devait inévitablement recevoir une sanction pour ce qu'il a dit, puisqu'il s'agit de propos haineux. Maintenant, si on s'en va sur la plateforme de Radio-Canada, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Eh bien, on en a parlé hier. Le NPD voulait qu'on décriminalise la marijuana avant de la légaliser. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau a dit non à la demande du NPD. Pour le bénéfice de nos auditeurs, la différence entre légaliser ou décriminaliser s'exprime ainsi. La légalisation revient à retirer la production, la distribution et la consommation de la substance et de ses sous-produits du code criminel. Avec la décriminalisation, la substance demeure interdite, mais sa possession est plutôt punie par des amendes au lieu d'accusations criminelles. C'est comme ça que l'explique Radio-Canada et je trouvais que c'était tellement bien dit que ça résume le tout. Mais qu'est-ce qu'on ajoute sur la demande du NPD à l'égard du gouvernement libéral fédéral? Voici ce qu'on nous dit sur la plateforme de Radio-Canada. Le gouvernement libéral fédéral n'a pas l'intention de décriminaliser la marijuana avant de la légaliser, a dit lundi la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould. Selon elle, décriminaliser avant de légaliser ferait en sorte que les Canadiens mineurs et adultes continueraient d'acheter un produit de force et de qualité inconnue tout en alimentant les produits du crime organisé. Alors, c'était l'argument du gouvernement en disant « on veut pas que pendant que c'est décriminalisé, que les gens qui sont dans le crime puissent bénéficier de cet argent-là. » Quoi qu'il en soit, le crime organisé est en train de bénéficier de cet argent-là. Sauf que, s'ils sont surpris en train de faire le commerce, eh bien, à ce moment-là, ils vont être pénalisés par l'État. Donc, ce que nous dit Radio-Canada, c'est ceci. La motion du NPD semble, à tout le moins, avoir l'appui d'un libéral, le député de Beaches East York en Ontario, Nathaniel Eskrin-Smith. Maintenant, qu'est-ce que l'article nous dit concernant les conservateurs? Eh bien, voici ce qu'on apprend. Le député conservateur Colin Carey s'oppose à la motion, mais pour des motifs différents de ceux des libéraux. Il a accusé ces derniers de créer un vide politique et le NPD de tenter de le combler avec une autre mauvaise politique. Et donc, mesdames et messieurs, ce qu'on apprend par cet article, c'est que le cannabis va être légalisé au printemps prochain, mais il ne sera pas décriminalisé d'ici ce temps-là. Et maintenant, si on passe à la plateforme du Journal de Québec, eh bien, mesdames et messieurs, on vient de parler de cannabis, et ici, ce que je vais vous dire, ce n'est pas un écran de fumée. Non, loin de là, c'est connu de tous, Bernard Drainville quitte la vie politique pour co-animer une émission de radio à Québec. C'est ce qu'on apprend sur la plateforme du Journal de Québec. Ce n'est plus un secret pour personne, c'est clair, Éric Duhaime sera accompagné de l'ex-ministre Bernard Drainville. Eh bien, s'il quitte la politique, c'est certainement parce qu'il n'y a plus de motivation à demeurer au sein du PQ. Certains vont prétendre que les aspirants chefs ne l'inspirent pas suffisamment pour demeurer au sein de cette grande famille péquiste. Mais ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que l'indépendance n'est plus un sujet d'intérêt pour la population et il n'y a aucun chef qui va arriver à réactiver la flamme. À mon avis, pour une très longue période, il n'y a pas d'avenir pour la souveraineté. Parce que honnêtement, mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça va changer au Québec qu'il devienne un pays? Est-ce qu'il va y avoir moins de nids de poules? Est-ce qu'on va parler moins anglais sur la rue Sainte-Catherine à Montréal? Est-ce que le sirop d'érable va être plus clair? Est-ce que c'est juste le West Island qui va changer parce que certains anglophones vont déménager, possiblement? Et je dis possiblement. La grande question, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement? Si on se pose la question d'une manière sérieuse, qu'est-ce que ça va changer? On parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup de référendum, on se pose la question, on devrait faire un référendum rapidement ou on devrait se donner 6 ans pour le préparer, donc il reste 2 ans avant la prochaine élection, un autre mandat de 4 ans, 4 + 2 = 6. Mais les péquistes, les gens de Québec solidaire ou même Option nationale nous disent pas à quoi va ressembler un Québec indépendant. Moi, si on me dit, par exemple, « Veux-tu acheter une paire de souliers? » Mais je vais demander premièrement à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle a l'air et est-ce qu'elle m'est confortable. Dans n'importe quoi qu'on veut s'approprier, si on veut se donner un pays, à quoi il va ressembler? Qu'on nous présente le pays auquel les souverainistes rêvent. Mais je crois que même au sein de la grande famille souverainiste, on n'y croit plus tellement. On n'est pas en mesure de susciter un enthousiasme. Et d'après moi, c'est exactement ce qui a donné le goût à Bernard Drainville de quitter le Parti québécois. Il s'est dit, j'ai une famille, et est-ce que je vais mettre en péril la stabilité et la solidité de ma famille pour un rêve auquel personne ne croit plus? Eh bien, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans ses pensées, je ne suis pas dans son cœur, mais il me semble que les signaux qui émanent de sa décision ressemblent pas mal à ça. Qu'en pensez-vous? Et si vous voulez continuer la discussion, mesdames et messieurs, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur@ericlantier.net. Mais comme vous le savez, j'aime terminer avec une bonne nouvelle. Eh bien, voici une. L'Ordre national du Québec, nomination 2016. 34 personnalités québécoises nommées ou promues à l'Ordre national du Québec. Voici ce que nous apprend newswire.ca. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, est fier d'annoncer que 34 personnes seront honorées de l'un des 3 grades de l'Ordre national du Québec. Les récipiendaires seront décorés le mercredi 22 juin prochain lors d'une cérémonie qui se déroulera à la salle du Conseil législatif de l'Hôtel du Parlement. Eh bien, félicitations à ces 34 personnes. Avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que les liens qui sont reliés à ces articles qui ont été mentionnés dans cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, mesdames et messieurs, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.